Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans, on va faire deux lectures. Une première dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième lecture dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 14. Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres ? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. 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 Je vais régulièrement, j'ai plein d'autres sujets que je n'ai pas encore terminés, hein, je ne les ai pas oubliés, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Et je vais revenir très 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 souvent dans les mois qui viennent, Dieu voulant, sur la foi, en prenant des exemples concernant des personnages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais pour démarrer cette démarche concernant la foi, il me semblait normal, et j'en avais parlé il y a quelque temps de ça, que j'allais le faire, et c'est le jour, aujourd'hui, de le faire, j'allais vous parler de l'obéissance de la foi. C'est la raison pour laquelle j'ai lu les premiers versets du chapitre 1er de l'Épître de Paul aux Romains. Car il met en évidence la réalité de son appel en tant qu'apôtre, son apostolat, et il va dire que, ainsi, par la grâce de Dieu et cet appel qu'il a reçu de Dieu à être apôtre, pour annoncer l'Évangile, pour, en effet, amener au nom de Jésus-Christ à l'obéissance de la foi tous les païens, c'est-à-dire tous les non-juifs. Le texte le dit. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, et ça s'adresse aux croyants de Rome. Ce n'est pas des juifs, certains d'entre eux. Le salut est pour les juifs et pour les non-juifs. Heureusement qu'il n'y a pas qu'une partie de l'humanité qui est prévue dans le programme de Dieu, de salut, de grâce et de pardon. Merci Jésus. La traduction parole vivante, en ce qui concerne ce texte justement du chapitre 1er, je vais à un moment donné souligner ce que dit Jacques. Il est écrit ceci, par lui nous avons reçu, par lui donc, par le Seigneur Jésus, nous avons reçu la grâce, et c'est lui qui nous a appelés et mandatés pour annoncer aux nations, avec une autorité apostolique, l'œuvre grandiose que Jésus a accomplie afin d'amener tous les peuples à croire en lui, à croire en lui, et ensuite à lui obéir. Peu de choses dans la vie humaine, peu de choses sont plus évidentes dans notre vie humaine que la disparité qui existe entre les paroles prononcées et les actions menées. Et quand nous avons lu, et nous allons y revenir encore, le texte où Jacques parle de la foi accompagnée des œuvres, Jacques montre que la foi doit s'accompagner d'un modèle de conduite en harmonie avec la réalité de ma foi en Christ. Alors il existe dans ce que dit Jacques une suggestion claire, on en a parlé dimanche dernier, le message est sur le site. Une suggestion claire d'unité, un accord entier, un accord indispensable entre la foi et les actions, c'est-à-dire quand il y a les actions, il y a donc l'obéissance à la volonté de Dieu. La foi et l'obéissance sont liées. Si je dis que j'ai la foi et que je n'obéis pas à ce que Dieu me demande, ma foi est nulle. Si je dis obéir à Dieu et que je n'ai pas la foi, alors mon obéissance, elle ne sert absolument à rien, elle n'atteint pas son but. La foi et l'obéissance sont liées, car la soumission à ce que l'on croit, mes amis, mes frères et sœurs, démontre que l'on y croit vraiment. La foi qui n'a pas d'œuvre. C'est très étonnant, ça. Est-ce possible ? Bien sûr que non. Jacques le dit. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? C'est un non-sens. C'est aller à l'encontre de tout l'esprit de l'Évangile. C'est aller à l'encontre de toute la mentalité même, si je puis dire mentalité, mais la mentalité, l'état d'esprit du Seigneur Jésus. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? C'est une forme négative. Et la forme négative, permettez, pour pas que ça perturbe, parce que quand on aborde un tel sujet, il y en a certains qui sont perturbés, la forme négative ne doit pas obscurcir la visée, la vision positive de la question que pose Jacques. Il ne faut pas que ça vous perturbe, si tel était le cas. Quand Jacques, dans cette épître, dans cette lettre conduite par l'Esprit de Dieu, dit cela, et désire tout simplement montrer que la foi, et on va y revenir, que la foi n'est jamais une chose vide, mais que la foi, elle porte normalement beaucoup de fruits. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème avec la foi. Et il y a un problème avec l'obéissance à Dieu. Si ce n'est pas le cas, alors je vais être dans une position purement et simplement religieuse. Et on peut tomber dans ce piège de devenir des religieux évangéliques. C'est un piège. Mes petites traditions, mon petit culte, ma petite chaise, etc. Tout est petit. Une tradition. Même dans nos églises évangéliques, on a tendance à tomber dans des traditions, des rites, du rituel. Laissons le Saint-Esprit agir. N'ayons pas peur de l'action du Saint-Esprit qui va nous conduire selon la volonté de Dieu. La foi va porter des fruits dans tout ce que je vais apporter, dire, manifester, accomplir. Donc, ça veut dire qu'il y a une action, ça veut dire qu'il y a une obéissance, ça veut dire qu'il y a des œuvres. Et vous avez remarqué que le texte ne dit pas « si quelqu'un a la foi ». Non, non. Mais le texte dit « si quelqu'un dit, exprime ouvertement, audiblement qu'il a la foi ». Donc, s'il dit qu'il a la foi, il fait profession de croire. Et s'il fait profession de croire, alors normalement, cette foi qu'il professe, cette foi qu'il annonce, cette foi qui est entendue d'une manière verbale, elle doit normalement se voir, j'insiste, se voir par des actes, des œuvres, quelque chose qui est accompli. Pourquoi ? Parce que la foi, alors c'est un pléonasme ce que je vais dire, mais la foi, en définitive, elle nous amène à oser. Alors quand je dis que c'est un pléonasme, c'est dans le sens que quand j'ai totalement et vraiment et profondément confiance en Dieu, je ne vais pas me retenir dans ce qu'il me demande de faire. Je ne vais pas avoir la crainte des hommes parce qu'elles tentent un piège, dit la Bible. Il y en a beaucoup qui ont cette crainte des autres et des hommes, de ce que pensent les hommes, alors ils se retiennent et ils s'interdisent de vivre l'action, d'oser dans le domaine de la foi et de produire des œuvres, parce que la foi ose, elle s'engage publiquement par rapport à son amour pour Jésus-Christ. Regardez Jésus. Il a osé. Et c'est pour ça que je suis là ce matin, que vous êtes là. Que Dieu fasse qu'il y en ait beaucoup plus qui se rajoutent. Jésus a osé. Il n'a pas eu la crainte des hommes, des religieux de l'époque. Il a osé. Pourquoi il a osé? Parce qu'il avait une totale confiance en son Père. Et parce qu'il savait pourquoi il était sur la terre. Et le but du Seigneur Jésus, c'est d'aller jusqu'au bout dans une pleine obéissance. Seulement, Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre exemple par excellence, il a quand même appris l'obéissance. Par quoi? Par les épreuves, les choses qu'il a souffertes, les difficultés, les oppositions, etc. Ça veut dire que même les épreuves et les combats et les luttes ne sont pas là, on ne le rappellera jamais assez, pour diminuer notre foi, mais pour l'augmenter. Elles ne sont pas là non plus pour nous arrêter, parce qu'à ce moment-là, on va toujours s'arrêter. Hein. Et notre vie spirituelle, pardonnez, notre vie humaine, le sable s'écoule dans le sablier. Le temps passe et je vieillis. Et je vieillis. Et je vieillis. Et à un moment donné, je réalise que j'ai pris un coup de vieux et que, mince, si j'avais su, je me serais bougé un peu plus tôt. Mes frères et sœurs, vous vieillissez. Mais j'aurais pas dû venir ce matin, certains se disent, parce que pour m'entendre dire ça, mais je me le dis à moi aussi, à la différence, pardonnez peut-être de certains, c'est que personnellement, tous les jours, je vis ma vie chrétienne comme si c'était le dernier jour. Voilà. C'est tout simple. Je ne veux pas perdre de temps. Je veux que ma foi, et je pense que beaucoup me rejoignent, je veux que ma foi en Christ, elle produise quelque chose. Je ne veux pas être là à dire « Seigneur, je t'aime, alléluia, gloire à Dieu, merci pour les oiseaux qui chantent. » Oui, merci pour les oiseaux qui chantent, mais ça ne s'arrête pas ça. Ça ne s'arrête pas là, pardon. Tout ça, c'est merveilleux, mais ce n'est pas suffisant. Le Seigneur s'adresse à moi, il ne s'adresse pas aux oiseaux. Il s'adresse à moi, il s'adresse à mon cœur, il s'adresse à mon âme. On perd trop de temps parfois à discuter, à réfléchir. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je y vais? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Etc. Qu'est-ce que va penser l'autre? Non! Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que je manifeste une foi qui accomplit des actes. Pour l'église de Groyer, pour la ville de Groyer, pour le département du Tarn, pour notre pauvre pays de France. Réveillons-nous. La France souffre. Non, je ne fais pas un meeting politique, hein, mais c'est la vérité. Jusqu'à preuve du contraire, dites-moi, la France est heureuse? Non. Et ce n'est pas fini. Mais nous devons, en tant que chrétiens, croyants, tous ceux qui veulent s'approcher de Jésus, naître de Dieu, naître d'en haut, ils peuvent, avec la foi, accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. D'ailleurs, au verset 15 jusqu'au verset 18, nous l'avons lu tout à l'heure, il va, Jacques, rassembler des arguments pour soutenir sa déclaration. Il va les décrire, les uns après les autres, et c'est quand même assez significatif. Si un frère ou une sœur, j'aurais même envie de rajouter, que Dieu me pardonne, mais un frère, une sœur en Christ, oui, mais aussi si un homme, une femme, là, maintenant, arrive et qu'il se trouve sans habit, sans manteau, qu'il ait faim et que je sois là devant lui et que je lui dise « Dieu vous bénisse, monsieur, madame ». Et puis je m'en vais chez moi et moi je vais m'asseoir à ma table et je vais manger à ne plus en pouvoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années de cela, dans l'église de l'œuvre de Montpellier est une œuvre assez étendue. Et là, et elle existe toujours, l'église en question. C'est, on appelait cela à l'époque la paillade. Aujourd'hui, c'est la Mosson, la paillade, peu importe. Et l'église existe toujours, sur les hauteurs de la paillade. Et on avait donc une réunion avec les jeunes et les personnes âgées, ensemble, pour que les jeunes apportent leur dynamisme aux personnes âgées, puis que les personnes âgées, eh bien, puissent aussi apporter leur sagesse aux jeunes. Et là, on avait prévu un programme de chant, prédication, goûter, etc. Et je me souviens, quand on est arrivé, il y avait juste à la porte de l'église, à l'extérieur, une dame, très âgée, les cheveux dans tous les sens, habillée très mal, avec des trous dans les habits. Bref, elle était là, elle faisait l'aumône. Elle demandait l'aumône. Et tout ça en est passé. Je me souviens, je me suis arrêté, d'autres aussi. Beaucoup sont passés, bref, se sont assis. Et puis la réunion a commencé. Et à un moment donné, un quart d'heure plus tard, après que la réunion ait commencé, cette personne est rentrée dans l'église. Elle s'est approchée devant et les personnes, moi je n'étais même pas au courant, hein, les personnes qui avaient organisé cet après-midi-là l'ont fait monter sur l'estrade et là, quelle n'a pas été la surprise d'un grand nombre de voir cette dame enlever sa perruque, enlever quelques traits de maquillage et d'un seul coup de découvrir que c'était une chrétienne qui faisait partie du groupe des personnes âgées et qui s'était installée ainsi pour voir comment les chrétiens, les jeunes et les moins jeunes aller faire en la voyant devant la porte en train de faire l'aumône. Et ça a été très instructif, car elle a vu, puisqu'elle connaissait les chrétiens parfaitement, cette brave sœur, et elle a dit ceci, sans juger qui que ce soit. Elle a dit, mes frères et sœurs, les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, beaucoup m'ont parlé, beaucoup m'ont encouragé, beaucoup m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose, beaucoup m'ont invité à entrer dans le lieu de culte, en plus il faisait pas chaud, d'entrer dans le lieu de culte pour me réchauffer, mais malheureusement, trop encore, sont passés comme si je n'existais pas. Ah, ça a mis un coup, hein. Il faisait froid dehors, mais là il a commencé à faire froid à l'intérieur. Et beaucoup se sont posé la question, ils ont dit, mais en effet, j'ai la foi, mais où sont les œuvres? Si ça n'avait pas été une chrétienne qui avait décidé de jouer ce rôle, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui souffre, ça serait passé inaperçu. Et chacun serait resté avec sa conscience, essayant plus ou moins la déculpabiliser, et en disant à Dieu, oh tu sais, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, la Bible me dit autre chose. Quelqu'un qui dit aimer Jésus, C'est quelqu'un qui a été au bénéfice de l'amour de Jésus. C'est quelqu'un qui a été au bénéfice de son secours et qui l'est encore aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire. Et il le dit, si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, après on peut donner aussi ce qui est nécessaire au cœur, mais on commence d'abord par le corps. Attention de ne pas tomber aussi dans ce piège dans lequel parfois certains chrétiens tombent, c'est-à-dire une personne a faim, elle a soif, elle a besoin d'un vêtement, ça peut être un chrétien, puis de commencer à lui lire toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oui, la parole de Dieu est vivante. Mais avant de donner la parole de Dieu à quelqu'un, donnons-lui d'abord du pain. Donnons-lui à boire, donnons-lui un vêtement, donnons-lui un peu de chaleur, et là, il va écouter la parole de Dieu. Il y a quelques années de ça, alors que nous étions effectivement à Marseille-Saint-Antoine, dans les quartiers nord, un matin, vendredi matin, pendant le temps de prière, j'avais organisé tous les vendredis matins un temps de prière de 6h à 8h du matin, avant que les gens partent au travail, et ils venaient prier. Et je me souviens qu'un vendredi matin, alors que je venais d'ouvrir le lieu de culte, un homme, un SDF, qui était très connu dans les quartiers nord de Marseille, dans le 15e arrondissement précisément, il est rentré et il est venu jusque vers moi, j'étais seul dans le lieu de culte, personne n'était encore arrivé, je préparais le moment de prière, et il est venu, il me dit « voilà, j'ai besoin de votre aide ». Et cet homme, je vais vous le dire franchement, je vais le dire crûment, mais c'est la vérité, je ne vais pas dire autre chose. Hein. Il sentait, mais vraiment, mauvais. Je vous assure, je le dis, la vérité, il sentait mauvais. Mais quand je dis mauvais, c'était pas évident, quoi. Et en plus, il se collait à moi. Mais à un moment donné, et je le dis devant Dieu, à un moment donné, j'ai eu ce réflexe purement charnel de le repousser. Et je le dis. Non, parce que je suis qu'un homme. Hein. Non, parce que je ne laisse pas paraître des choses. Je ne suis pas Dieu, moi. J'ai voulu le repousser. Tellement que ça m'indisposait. Et à un moment donné où j'ai voulu le faire, le Saint-Esprit, au même moment, m'interpelle. Et me dit, Laurent, souviens-toi comment toi tu étais. Alors là, j'ai reçu un sacré coup, quoi. Et à partir de ce moment-là, intérieurement, pendant qu'il me parlait, j'ai senti l'Esprit de Dieu m'amener à avoir une autre démarche. Et depuis, eh bien, ça m'a permis de mieux comprendre certaines choses. Et j'ai tout fait pour aider cet homme. Les chrétiens sont arrivés, nous avons tout fait pour l'entourer. Et puis il est revenu régulièrement, et puis est arrivée la fin de l'année, le 31 décembre, soirée de longue veille, repas, comme ici, avec des activités, la parole de Dieu, temps de prière, et nous étions tous là, et d'un seul coup, qui je vois arriver ? Le SDF. Mais cette fois-ci, il sentait bon. Alléluia. Parce que entre le moment, donc je vous ai pourallé tout à l'heure, jusqu'au 31 décembre, il s'est écoulé pas mal de temps où il revenait sans cesse pour demander à manger. On avait une petite aide alimentaire, donc on lui donnait à manger, on lui donnait des vêtements, on avait une petite friperie, on l'aidait, on l'encourageait, les frères et sœurs s'y sont mis aussi, ils n'ont pas tout laissé au pasteur, non, ils s'y sont mis, ils ont manifesté la foi, oui, ils l'avaient, mais avec les œuvres. Et cet homme a été touché. Quand il rentrait d'ailleurs, il m'avait rebaptisé, je m'appelle Laurent, je sais pas, il m'avait baptisé, je sais plus comment, il m'avait appelé Jean-Charles ou un truc comme ça, ça lui faisait plaisir, je lui disais pas que je m'appelais Laurent, ça servait à rien. Et il était donc avec tout son cœur, il était heureux. La foi avec les œuvres, ça accomplit quelque chose dans les cœurs. Et Jacques a raison. ou encore ce témoignage de cet homme qui a ouvert juste en face de l'église du quartier de Saint-Antoine à Marseille, il a ouvert un petit magasin où il tuait des poulets halal. C'est un Marocain. Il avait ouvert ce magasin et il les tuait dans l'arrière-boutique, halal. Boum. Et puis un jour, quelqu'un de l'église me le présente et on parle ensemble. Et puis il me dit, monsieur le pasteur, j'aimerais que l'on se voit tous les deux, qu'on se rencontre tous les deux. Alors j'ai dit, écoute, tel jour, à telle heure, je reviens ici, à l'église, on parlera ensemble dans le bureau, là, tranquillement. Et il m'attendait, C'était son jour de repos, je m'étais adapté. Et on est entré dans le bureau. Et là, il a commencé à m'ouvrir son cœur. Et il m'a dit des tas de choses. Et à un moment donné, il s'est mis à pleurer. Il a dû me parler, écoutez bien, pendant 1h30. 1h30, je n'ai pas dit un mot. Je l'ai écouté. Et au bout 1h30, il s'est mis à pleurer. J'ai rien dit. Et là, il me dit, au bout 1h30, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui passe du temps pour m'écouter parler. J'aurais pu, à des moments donnés, il faut intervenir, il faut parler, mais là je sentais non. Le fait que je l'écoute, c'était la foi, mais avec des œuvres. Ça c'est aussi quelque chose qu'on est appelé à vivre. Au point que, je rajoute ceci pour l'histoire, au point que quand j'arrivais pour ouvrir l'église, alors si un jour vous allez dans les quartiers nord de dans le quartier de Saint-Antoine à Marseille, c'est la venue de Saint-Antoine, il y a l'église là, elle est entourée de bars. Un bar à gauche, un bar à droite, un bar devant, un bar plus loin. On ne peut pas mourir de soif là. Donc, et il y avait du monde, je vous parle dans les beaux jours, sur les terrasses de café, beaucoup d'Arabes. Des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Kabyles, etc. Des personnes de toute race étaient là, et sur les terrasses de café. Et quand j'arrivais pour ouvrir l'église, il était devant son magasin, il me voyait arriver, il faisait « Pasteur !» Tout le monde savait que le pasteur arrivait. Il était tellement content. Et le jour où je quittais l'église pour aller plus loin, pour servir le Seigneur, je suis allé le saluer, je lui ai dit « Écoute, je vais partir, servir le Seigneur plus loin. » Et il s'est mis à pleurer. Mais alors, je n'arrivais plus à l'arrêter. Mais j'ai dit « Mais arrête, je repasserai. » Je n'ai pas pu repasser depuis. Il faudrait bien que j'y repasse un jour. Il m'a dit « Non, mais t'en vas pas, reste là. » Mais j'ai dit « Mais je ne vais pas rester là toute ma vie. » Et il me dit « Mais si. » Très gentil. Tu t'en souviens, Pascal? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'avais besoin que vous m'écoutiez, vous m'avez écouté. J'avais besoin que vous me serriez dans vos bras, vous m'avez serré dans vos bras. J'avais besoin, bref, point de suspension de votre aide. Je lisais cette anecdote. C'est un soir de bataille, un croyant parcourait le lieu du carnage, cherchant à soulager quelques blessés. Il a trouvé là un soldat qui n'avait plus que peu d'instants, peu de moments à vivre. Et le croyant s'est penché vers cet homme qui agonisait et il lui dit « Voulez-vous que je vous lise un passage de l'Évangile ?» Et pour toute réponse, l'homme agonisant, le mourant, lui dit « J'ai soif, si vous pouviez me donner un peu d'eau. » Aussitôt, le croyant est allé vers un ruisseau qui était juste à côté, lui rapporta de l'eau, puis le soldat lui dit « Si vous pouviez mettre quelque chose sous la tête. » Le croyant enleva son manteau et le plaça sous la tête du blessé. Et puis, le mourant, l'agonisant, lui dit « Écoutez, « j'ai froid !» Alors, le croyant enleva de nouveau une autre veste et il l'étendit sur les jambes du blessé. Et le soldat agonisant, mourant, lui dit « maintenant, si c'est votre livre qui fait des hommes comme vous, alors ouvrez-le et lisez-le jusqu'à ce que je meure. Voilà un homme qui a donné à boire à son prochain et en même temps, le faisant à son prochain, il l'a fait à Dieu en même temps, à Jésus en même temps. Chaque fois que vous faites ça à un des plus petits, à ces personnes, eh bien c'est comme à moi. Vous le faites comme pour moi. Vous me l'accordez aussi. Quand vous visitez un malade, quand vous allez voir un prisonnier, quand vous allez aider telle personne, c'est à moi que vous le faites. La foi va manifester des actes concrets, des actes bénis, des actes encourageants. C'est pas un chrétien, c'est pas quelqu'un d'assis et qui dit « Seigneur, bénis-moi, 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 donne-moi, donne-moi ». Quelqu'un qui fait ça, il s'appelle une sangsue. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On lisait bien votre Bible. La sangsue, elle a deux filles, dit la Bible. Donne, c'est des jumelles. Hein. Donne, donne. Il y en a même qui se sont permis parfois de chanter « Donnez, donnez-moi et Dieu vous le rendra ». C'est facile. Non. Dieu nous a donné pour donner. La foi que j'ai reçue, alléluia, m'amène à l'action pour donner. Quand je donne, je suis heureux. Quand je donne, je reçois. L'arroseur est arrosé, alléluia. Quand j'apporte, Dieu bénit, amen. Le jour où j'ai commencé à décider, là, dans ma marche chrétienne en nouveauté de vie, d'aller avec l'équipe d'évangélisation dans la rue, pas été facile. La première fois que j'ai parlé à quelqu'un de ma foi, ça n'a pas été facile. Mais j'en ai retiré un bonheur extraordinaire. À la limite, même si celui qui était en face, il m'a dit « Ah, je ne veux pas de votre Bible, pas de votre évangile, vous savez comment sont les gens. Hein. » Mais c'est incroyable, j'étais heureux. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais c'est vrai ce que dit la Bible. Par contre, on est dans un monde qui dit « il y a plus de joie à recevoir qu'à donner ». Maintenant, quand je donne, je reçois. C'est la logique de Dieu. Et cet homme a donné à boire à son prochain et à Dieu en même temps. L'important se trouve en ceci, c'est que le croyant, ce croyant-là qui s'est penché sur ce mourant, il a su créer chez lui la soif spirituelle. Les situations ne sont jamais les mêmes, mais mes frères et sœurs, mes amis, une bonne parole, un sourire, une aide sont autant de verres d'eau distribués. Dit la Bible, vous ne perdrez pas alors quand vous faites ainsi la foi et les œuvres, vous ne perdrez pas votre récompense. Sans parler de la satisfaction d'avoir été pour votre prochain, pour son prochain instrument entre les mains de Dieu et un moyen de salut, un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. Quelle bénédiction que d'être un instrument qui apporte quelque chose aux autres. Alors vous allez dire, vous, monsieur le pasteur, eh bien vous le faites par votre prédication. Pas seulement, ça s'arrête pas là, ça va plus loin que cela. Comment montrer sa foi, son obéissance? Je voudrais quand même, pour que tout soit bien équilibré, que on comprenne l'aspect doctrinal de la chose, c'est de vous dire, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que dit Jacques, et c'est pour ça que j'ai lu l'épître de Paul aux Romains, dont le thème principal est la justification par la foi. Il n'y a pas de contradiction entre ce que dit Jacques et ce que dit l'apôtre Paul. Ils sont pas là en train de se contredire et non, t'as tort. On est seulement justifié par la foi. Les œuvres, ça ne sert à rien par rapport au salut. Et puis Jacques de dire à Paul, non, écoute, on est justifié par les œuvres. La foi, c'est pas suffisant. Ils ne se contredisent pas l'un et l'autre. Ils se complètent. Oui, je suis justifié par la foi. La foi qui sauve. Amen. Paul le dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par le moyen de la foi. Paul va insister sur la foi comme le moyen par lequel nous acceptons Jésus comme sauveur. Jacques, quant à lui, il attire l'attention sur le fait que la vraie foi doit être active, persistante, de façon à modeler notre propre existence, nos propres existences. Jacques utilise, nous l'avons lu, l'exemple d'Abraham. On y viendra sur Abraham, quand on va parler des personnages bibliques anciens, Nouveau Testament par rapport à la foi. Mais je le souligne parce que Jacques en parle, il souligne son témoignage dans le sujet qui nous intéresse ce matin. Et Jacques va utiliser l'exemple d'Abraham pour récuser en quelque sorte l'idée selon laquelle la foi peut exister sans consécration ni amour pour Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est impossible. L'apôtre Paul utilise l'exemple de la foi d'Abraham, lui, pour combattre la doctrine qui établit le salut sur le mérite et ses propres œuvres plutôt que sur la grâce de Dieu. Mais d'un côté et d'un autre, l'Abraham est un exemple d'homme qui va vivre cet équilibre. Il est dans la foi, mais il est aussi dans les œuvres, dans l'action. Et d'un côté comme d'un autre, on a besoin de ces deux critères spirituels pour avancer selon le plan de Dieu, la vision de Dieu. Sinon, il va me manquer quelque chose. La foi sans les œuvres est une foi vidée de sa substance. Et cette foi en question, si elle est vidée de sa substance, elle est sans rapport avec la foi biblique centrée sur Jésus. La foi qui sauve, elle est toujours une foi vivante qui ne se limite pas au simple fait de confesser Christ comme son sauveur, mais qui va lui rendre quelque part une obéissance qui lui est due en tant que Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Et ainsi, l'obéissance est un aspect essentiel de la foi. Tous ceux qui sont venus à la foi salvatrice en Christ, Éphésiens chapitre 2, verset 10, ils sont créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors oui, on peut noter quelques exemples très rapidement de foi active et salutaire, à la fois pour soi et pour les autres. Quand je lis l'évangile de Luc au chapitre 5, verset 18, il est question de quatre hommes qui vont porter sur un lit un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer, à le placer devant Jésus, mais ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule qui était là, elle était très nombreuse. Alors ils sont montés sur le toit, ils le descendirent par une ouverture qu'ils ont faite. Je vous rappelle que les toits des habitations à ce moment-là en Israël étaient plats. D'accord ? Et c'était fait avec un peu de chaux, du foin, du chaume, etc. C'était un petit peu facile pour ouvrir, de faire un trou. Donc ils ont fait un trou. Je ne sais pas après s'ils ont réparé le trou, mais ils ont fait un trou. Ils ont abîmé la maison. Ça nous amène à une réflexion plus profonde encore. Je vous laisse le faire. Alors, ils montèrent sur le toit, ils ont fait cette ouverture, et par l'ouverture, ils ont descendu cet homme au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et voyant leur foi, Jésus va dire à l'homme qui est devant lui, « Tes péchés te sont pardonnés. » Alors, bien sûr, il y a la réaction de tous ceux qui sont là, des religieux, des traditionalistes, des ritualistes. Et Jésus va leur dire, est-ce qu'il vous semble que, eh bien, il est plus important que je dise à quelqu'un que tes péchés soient pardonnés, ou, eh bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Ah, ils sont embêtés. Le Seigneur ne néglige pas les deux. Il sauve, il guérit. Il guérit, il sauve. Amen. Il ne va pas dire « Aujourd'hui je te guéris, reviens demain, je te sauverai ». Il ne dit pas « Aujourd'hui je te sauve et reviens demain, je te guéris ». Le Seigneur agit en fonction de la foi et de l'obéissance pour que ces hommes, ces quatre hommes, ces quatre amis, je ne sais pas s'ils sont croyants ou pas, mais en attendant, quelle foi, quelle détermination. Voyez-vous, l'homme paralysé avait besoin d'une aide salutaire et ces hommes, ces quatre amis, vont manifester la foi active. Et le péché peut malheureusement paralyser, peut malheureusement abattre. On pourrait tellement développer sur le sujet. Le péché éloigne de Dieu, car la paralysie nous parle du péché et de ce qu'il peut engendrer. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est un autre sujet. Mais ces quatre hommes, si je puis souligner ceci, vont donc être dans l'action, la démarche d'œuvre et de foi, parce que je remarque que chez eux, il y a l'intention de la foi. Ils vont chercher à l'introduire, à le placer devant Jésus. C'est une bonne chose à désirer faire. Ils vont agir, ils vont faire ce qu'il faut faire. L'homme qui est sur le lit, il ne les décourage pas. Il leur dit non, laissez-moi tranquille. Non, lui aussi, il a envie. Attendez, ils ne l'ont pas forcé. Ils ont pas dit, tu discutes pas, c'est comme ça. Non. Je suis convaincu qu'il était avec eux. Ils n'étaient pas quatre, ils étaient cinq. Ils étaient unis dans la foi pour être devant Jésus, pour que Jésus intervienne en faveur de cet homme, qu'il soit à la fois pardonné et à la fois guéri. Parce que Jésus est Dieu. Il y a l'obstacle rencontré, la foule elle fait barrage, je l'ai dit, ils ne savent pas par où l'introduire, alors le caractère inventif de la foi dans l'obéissance se manifeste. Mes frères et sœurs, on peut exactement faire la même chose, dans quelques conditions que ce soit, il y a l'intention, il y a l'obstacle, mais après il y a le caractère inventif dans la démarche de la foi pour faire des œuvres. Je n'ai pas là à dire, ah je ne sais pas comment faire, c'est normal, si je me regarde toujours moi-même, que je fais du nombrilisme, excusez du peu, eh bien que je suis en train de regarder toujours ma vie, j'en ai vite fait de faire le tour de ma vie. Par contre, devant moi, il y a des gens intéressants, il y a des hommes et des femmes qui sont là avec une attente. Ça vaut la peine de s'arrêter. Alors, le caractère inventif de la foi, c'est qu'ils ne sont pas repartis décourageants, disant on peut pas le placer, on peut pas l'avancer, on peut pas le mettre devant Jésus, donc on laisse tomber, excuse-nous, on t'en ramène, et puis tu resteras comme ça. C'est ce que Jacques dit. Si quelqu'un vient en disant j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais il manifeste le besoin, bien sûr que s'il le manifeste pas, c'est un peu difficile de lui dire écoute, on est là pour t'aider, mais s'il le manifeste, déjà c'est une démarche de foi. Et nous, nous allons être avec lui dans la démarche d'accomplir l'œuvre, l'action. On va être inventif, on ne va pas repartir découragé, mais on va trouver la solution. Tant la foi qui désire aboutir trouve des solutions, ça c'est quelque chose d'indéniable. J'ai lu, et je vais m'arrêter dans quelques instants, j'ai lu ce témoignage ces derniers jours et je vous le livre parce qu'il va dans le sens de ce que je viens de dire ce matin. Écoutez bien ce témoignage. C'est une histoire vraie. Parfois, c'est des images. Là, c'est une histoire vraie. Cette histoire, elle concerne le premier scaphandrier afro-américain dans l'histoire de la Navy. Donc, la Navy, aux États-Unis, c'est un corps d'armée. Et l'histoire de cet homme, c'est qu'il a dû faire face, c'est le premier scaphandrier afro-américain, il a donc dû faire face au racisme. Il a dû faire face au racisme ambiant. Il a dû endurer la discrimination, mais tous les jours. Mais malgré toutes ces difficultés, il a persévéré et sa détermination était plus forte que les obstacles. Lorsque sa formation de scaphandrier a été validée, ça lui a permis de devenir officier et donc d'être scaphandrier dans la Navy. Il s'est mis à l'œuvre. Et à un moment donné, il a eu un accident. Et à cause de cet accident, il a dû être amputé d'une jambe. Mettez-vous à sa place, il s'était tellement battu pour atteindre l'objectif, malgré la discrimination, le racisme, les oppositions. Pour lui, c'est sa vie qui s'écroule. Mais il n'a pas abandonné. Écoutez la suite. Il s'est fait poser une prothèse. Puis durant 2 ans, pas 2 mois, 2 ans, il s'est entraîné tous les jours pour que sa jambe artificielle soit aussi valide que son autre jambe, et une fois ses capacités retrouvées, il est retourné au bout de 2 ans, où il n'a pas baissé les bras, malgré les douleurs, malgré toute la difficulté que vous pouvez imaginer. Une fois ses capacités retrouvées avec cette prothèse, il est retourné voir l'armée. Et l'armée a refusé sa réintégration. Alors, il est retourné encore voir l'armée. Il a insisté encore et encore et encore et encore. Et l'armée, la Navy, a décidé de le faire passer devant une commission pour déterminer s'il était apte ou non à réintégrer son poste de scaphandrier. Alors, devant cette commission, des personnes sont venues, des militaires sont arrivés. Ils l'ont revêtu d'un scaphandre plus lourd que la normale. Et lui ont demandé, là, une fois revêtu de ce scaphandre plus lourd que la norme, ils lui ont demandé de marcher normalement comme s'il avait les 2 jambes valides. Il n'avait, selon la directive qui lui était donnée, que 10 pas à faire. Alors il a commencé à marcher. Et pendant qu'il était enfin en train de faire le premier, le deuxième, le troisième pas, on pouvait lire sur son visage une souffrance terrible. Son visage se crispait, mais il avance. 6e, 7e pas, 8e, 10e. À la fin, il a réussi le défi qu'il devait relever. Il a pu réintégrer son poste de scaphandrier dans la Navy. Mes amis, mes frères et sœurs, son épreuve a été longue. Elle a duré donc plusieurs années. Il a dû affronter la réticence de tous, mais sa détermination à accomplir son rêve lui a donné la force de persévérer et d'obtenir la victoire. Le gros problème, c'est que nous sommes dans une société où il y a parfois là, au milieu de l'Église, des hommes et des femmes qui ne persévèrent plus, qui se laissent aller, qui abandonnent au premier problème. Le Seigneur nous dit que nous avons reçu, la parole nous dit, par son esprit, par sa présence, par le salut qui est en nous, la foi. Alléluia! Mais la foi, elle ne reste pas sans œuvre, elle ne reste pas sans persévérance, sans action, sans détermination. La foi, elle produit quelque chose. Il n'y a rien de plus terrible aux yeux de Dieu qu'un croyant, qu'un chrétien, son enfant, qui reste là du matin au soir, à ne pas bouger, à ne pas œuvrer, alors que Dieu l'appelle. Il y a une chose qui est sûre, en ce qui me concerne, je parle de moi, pardonnez-moi, mais on ne parle de soi si bien parce qu'on se connaît, il y a bien une chose qui se passe le soir quand je m'endors, c'est que je suis heureux de ce que j'ai pu faire pour la gloire de Dieu. Peut-être pas toujours comme il faut, mais je le fais de tout mon cœur, avec la réalité de la foi qui se nourrit de la parole de Dieu, qui se nourrit de la communion avec Jésus, qui se nourrit de la présence de mes frères et sœurs dans un culte comme celui-ci ce matin. Je n'arrive plus à comprendre comment il est possible que des frères, des sœurs ne viennent plus dans la maison de Dieu. Je ne comprends pas cela. Pardonnez-moi du peu. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Le Seigneur pleure. Et peut-être je suis là ce matin, mais je suis là et je ne fais plus rien. Le Seigneur nous invite à nous lever. Il nous invite à nous laisser saisir à nouveau. Il nous invite à réfléchir à nouveau, quel que soit notre âge. Qu'est-ce qu'il attend de moi, le Maître ? Qu'est-ce que tu attends de moi, Jésus, dans cette pauvre société, dans ce pays malheureux où il y a tant de folie, tant de misère, tant de tuerie, et ça, c'est rien. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ? Il m'a donné la foi. Ne laissons pas la confusion, ne laissez pas le doute, ne laissez pas le monde, l'état d'esprit du monde. Ne laissez pas le diable vous raconter n'importe quoi. Ne laissez pas le manque de persévérance vous gagner. Mes frères et sœurs, la persévérance, ça veut dire tenir fermement à quelque chose, comme cette histoire. L'obéissance de la foi. Je termine avec 2 citations. Mais je rajouterai juste ceci avant ces deux citations qui concluront. Ce qui fait réellement agir Dieu, c'est lorsque l'homme agit. Il y a des drôles d'idées qui circulent. Il faut attendre que Dieu agisse. Bien sûr que j'attends Dieu, mais le Seigneur me demande aussi de faire ma part. Relisez bien la Bible. Si moi je ne fais pas l'effort, si moi je ne fais pas le pas, si moi je n'avance pas, si moi je ne décide pas, ce n'est pas le Seigneur qui va venir me secouer comme ça. Allez, bouge-toi. Non, non, il nous laisse. Il y a le libre arbitre. Mais je l'ai dit tout à l'heure et je le répète vraiment solennellement, le temps passe, mes frères et sœurs. Vous prenez de l'âge. Et je me souviens de ce frère qui avait 80 ans et qui m'a dit un jour ceci lorsque je le visitais. Il m'a dit, vous savez, pasteur, il y a bien une chose que je regrette. C'est de ne pas m'être manifesté devant Dieu alors que je croyais en Jésus. J'avais 20 ans, 80 ans, hein, 80 ans. Il a commencé à 20 ans. J'avais 20 ans et j'ai eu tendance à me laisser un peu aller, à ne pas persévérer. Je n'ai pas manifesté les œuvres que Dieu me demandait de manifester pour le salut des âmes, par rapport à tout ce qu'on a dit, pour aider les uns et les autres, pour être un instrument de bénédiction. Je me suis laissé aller. Et là, aujourd'hui, j'ai 80 ans. Je me suis réveillé un peu tard. Et il y a bien une chose que je regrette. C'est d'avoir laissé mes jeunes années être gaspillées à autre chose qu'à servir le Seigneur et accomplir les œuvres que Dieu me demande d'accomplir parce que pourtant j'avais la foi et j'ai toujours la foi en Dieu. Si je pouvais revenir en arrière, j'ai dit frère, c'est plus possible. Par contre, même si vous avez 80 ans aujourd'hui, essayez à racheter le temps, comme dit la Bible, parce que les jours sont mauvais. Et vous qui êtes jeunes, et je m'adresse à ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais je m'adresse à ceux de ma génération parce que je suis jeune. Je vous en supplie, j'essaye à vous montrer l'exemple, j'essaye à vous montrer le chemin en tant que serviteur de Dieu. Je vous en supplie, mettez-vous à l'œuvre. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Fais-le avec la force que tu as. Fais-le. Décide aujourd'hui, dernier dimanche du mois de mars. On va rentrer dans une semaine, dans le mois d'avril. Ça passe. Là, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Seigneur, après ce que m'a dit ce pasteur, cet homme, mon frère, Laurent, comme vous voulez, je décide. Alléluia. Je décide de continuer à nourrir ma foi. Oui, amen. Mais je décide que ma foi soit rattachée à une pleine obéissance renouvelée. Alléluia. Deux citations, elles ne sont pas de moi. Hein. Une de Léonard de Vinci et une de cet homme Edmund Burke, homme politique et théoricien britannique. La première, Léonard de Vinci a dit ceci. Le fer se rouille faute de s'en servir. L'eau stagnante perd sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. Ça, c'est formidable. C'est pas dans la Bible, mais c'est formidable quand même. Et la deuxième, d'Edmund Burke. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes et des femmes de bien. Je laisse ça sur votre cœur. Si vous n'avez rien retenu du message, ça serait dommage que vous reteniez au moins ces deux citations, qu'elles vous poussent à bouger pour Dieu, car je veux dire, après tout, ces hommes, quand ils ont prononcé ça, ils n'étaient pas spirituels, mais ils étaient intelligents, ils avaient une vision juste, et je crois que les chrétiens, eh bien, nous avons aussi en Jésus-Christ une vision encore plus juste que celle-ci. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans notre cœur. Que Dieu nous aide. Oh Dieu, mon Dieu Père, bénis mes frères et mes sœurs, ici à Groyer, partout dans ce pays, où tes enfants sont serviteurs et servantes, sont à la brèche. Bénis ton Église, au-delà de toute mesure. Et que ce matin, ce que nous avons retenu par rapport à l'obéissance de la foi et les œuvres, puisse être une réalité dans nos propres vies, quotidiennement, régulièrement, tous les jours de notre vie. Seigneur, à un moment donné, tu vas venir nous chercher. La mort va nous surprendre physiquement. Et nous ne voulons pas être de ceux qui seront confus devant toi. Mais que nous puissions t'entendre nous dire « Entre bon et fidèle, serviteur et servante, dans la joie de ton maître, parce que nous aurons accompli ton œuvre. Nous aurons porté du fruit. Nous aurons, Seigneur, répondu présent et nous aurons refusé l'inaction afin que le mal ne triomphe pas, afin que ma vie ne se rouille pas, afin que mon sang, mon être tout entier ne vienne pas se refroidir et se glacer parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est des hommes et des femmes bouillants. Dieu Tout-Puissant, fais-nous du bien en cette nouvelle journée. Au nom de Jésus, Amen.